Classique sur RCN, Dominique Bréda.
Bonsoir à tous et bonsoir Hugues Leclerc. Bonsoir. On s'approche tout doucement de l'édition numéro 34 des Nancyphonies qui débuteront le 1er juillet et se termineront le 17 juillet. Je rappelle Hugues Leclerc que vous en êtes le directeur artistique depuis la première édition qui date de 1990. 33 ans de fidélité, un festival qui joue cette année encore tout au long de ses 19 concerts, la carte de l'équilibre entre les musiciens au firmament et les jeunes pousses déjà confirmées ou en devenir. On va peut-être commencer à écouter celui que vous qualifiez d'artiste au doigt de sorcier, Arkady Volodos. C'était une des variations d'une Rhapsodie de Liszt dans la version d'Arkady Volodos. Alors Hugues, les programmes de ces Nancyphonies sont très diversifiés et vont permettre de parcourir un large spectre musical de bac à glace, si j'ose dire, avec une ouverture vers le jazz et l'incontournable concert autour des Jeux Olympiques. Alors on retrouve toute la programmation sur le site des Nancyphonies et on va s'arrêter sur quelques-uns de ces concerts. Alors Hugues, pour le piano solo, on va entendre un grand mais discret interprète en la personne de Lucas de Bargue.
Oui, discret, je ne sais pas si on peut, on peut dire vraiment discret, notamment avec ses prises de position récentes qui ont défrayé la chronique. Non, c'est un garçon qui, depuis son prix au concours Tchaïkovski, s'est lié d'amitié avec le grand chef Gergiev, et puis à partir de là, sa carrière est partie de manière absolument fulgurante. Alors ce qu'on peut dire de Lucas, c'est que c'est un artiste tout à fait singulier. Il a des capacités musicales tout à fait hors normes. Moi je l'ai vu de mes yeux en tant que moi-même pianiste. Il est capable de mémoriser n'importe quoi en quelques minutes, quelques heures. C'est tout à fait fascinant. Et donc il a un répertoire vraiment énorme et varié. Et là il vient de faire l'exploit d'enregistrer la totalité de l'œuvre de Gabriel Fauré. ce qui est un exploit parce que c'est difficile pianistiquement et puis c'est difficile aussi harmoniquement. C'est pas à vous que je vais l'expliquer, Dominique.
Tout à fait. Bon, on va peut-être l'écouter, Lucas de Bargue, dans une barcarolle de Gabriel Fauré. C'était la Barcarolle opus 1, numéro 1, oui c'est ça, la Barcarolle opus 26, numéro 1, pardon, de Gabriel Fauré, sous les doigts de Lucas de Bargue. Alors cette année, Hugues Leclerc, on n'aura pas de mania à deux pianos comme vous le faisiez les années précédentes avec Jean-François Zigel, mais vous proposez une chose qu'on entend relativement rarement, un récital de piano forte à la salle dîner de Vendeuvre. Quelle est la différence entre le piano forte et le piano ?
Alors, c'est une bonne question. Si on veut rentrer vraiment dans le détail, on va considérer qu'on passe du piano forte, qui est le entre guillemets, l'ancêtre du piano moderne. Alors, quel est le moment où on passe du piano ancien au piano moderne? C'est quand on commence à rajouter des pièces métalliques au niveau du cadre. C'est un peu ça le point de repère. Alors, le problème après, c'est que selon les marques, ça, c'est pas du tout la même date au cours du 19e siècle. Enfin, on peut dire que le pianoforte, c'est un instrument au départ en forme de clavecin. On prend des caisses de clavecin, on frappe les cordes au lieu de les pincer. Et le premier modèle serait dû à Cristofori et daté de 1696. Mais il va mettre presque 70 à 80 ans à s'imposer. Mmh. Et ce qu'on raconte, c'est que c'est vraiment l'instrument de la Révolution, c'est-à-dire que c'est l'instrument de la bourgeoisie par rapport à le clavecin qui restera l'instrument des aristocrates.
Mmh. Alors pour illustrer ce concert-là, vous proposez notamment une œuvre de Hélène de Montgeroux, qui est une personnalité de l'époque.
Oui, alors c'est une vraie compositrice. Hein. C'est pas pour elle un ornement, puisque de nombreuses femmes pratiquaient la musique à l'époque, mais peu avaient la possibilité d'en faire leur activité principale. Donc Hélène de Montgeroux est considérée comme une virtuose et aussi une grande compositrice, comme on aura plus tard, évidemment, Fanny Mendelssohn, Mel Boni, Cécile Chaminade, et ainsi de suite. Mais enfin, à l'époque, c'est une des premières, et dans cette période de post-révolutionnaire, elle est tout à fait singulière. Alors sa musique est très belle, elle est pré-romantique avec beaucoup d'éléments classiques encore, mais c'est la sonate est splendide.
Elle a été une des premières profs de piano du Conservatoire de Paris.
Oui, au même titre que le fameux Ladurner que j'ai enregistré. Ouais. Et à l'époque, c'était toute une aventure le conservatoire, puisqu'il n'y avait pas d'argent. Alors ce sont les professeurs eux-mêmes qui ont acheté les instruments. Ils n'étaient pas payés. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Ladurner, au bout d'un moment, quitte le conservatoire, parce qu'il en a marre de travailler pour rien.
Et elle a écrit aussi un cours d'apprentissage du pianoforte.
Oui, parce qu'on entre au 19e siècle dans on a eu des traités évidemment dans la période baroque, hein, notamment pour les organistes, les traités d'écriture, d'ornementation et ainsi de suite. Mais les technologues tels que Kemper va les décrire dans son ouvrage que je recommande parce qu'il est très drôle, vont arriver plutôt au 19e siècle. Et c'est là qu'on commence à avoir l'explosion de la pratique du piano. Et donc il y a tout un marché aussi, il faut le dire, hein, que Czerny gagne bien sa vie en écrivant des exercices, même très bien sa vie. Et donc les méthodes sont très en vogue, hein. Donc on aura celle de Carl Philipp Emanuel qui va être la première, et puis après on en trouve d'autres, et Chopin lui-même, le grand Chopin, commencera à rédiger une méthode, et puis je crois que ça l'a ennuyé très vite.
On va écouter Hélène de Montgeroux. C'était l'étude numéro 26 d'Hélène de Montgeroux sous les doigts de Clara Hammond. Alors, il y a évidemment des concerts à plusieurs instrumentistes dans ces Nancy Phonies version 2024. Et j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu sur le concert violon et harpe qui aura lieu à l'église de Séchamps le 5 juillet à 18h30 avec un programme de deux musiciennes autour de la danse.
Oui, alors ce sont deux stars de la scène. Elles sont... extrêmement vivantes, elles font des commentaires, elles présentent les choses, elles jouent ensemble depuis de nombreuses années. Et donc c'est un répertoire qui est moins courant que le fameux flûte et harpe, ah oui. qui est un peu le trompette et orgue de la, de la musique de flûte. Et donc il y a du répertoire, il y a aussi des transcriptions. Donc là, elles arrivent avec un florilège de pièces qui sont tirées de leur dernier album, qui s'appelle Dance. Et comme on l'aura compris, ce sont des musiques de danse et donc qui rentrent très bien avec le caractère estival du festival Nancyphonie, puisque on n'est pas dans une saison d'hiver, on est aussi en été. Il faut se détendre, se relaxer, rêver, farniente.
Voilà. Et c'est un programme vraiment très riche et très varié. Bozza, Saint-Saëns, Massenet, Glass, Piazzolla. Enfin, il y en a vraiment pour tous les goûts.
Oui, bah ça fait partie de ces florilèges qui sont peut-être moins à la mode que les monographies, mais enfin, on n'est pas au disque. Et puis, c'est vrai que pour le public, c'est très agréable aussi de passer d'un compositeur à l'autre, d'un univers à l'autre. Et Philippe Glass, alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, est un compositeur contemporain, mais qui fait de la musique, moi, que je rapprocherais d'une certaine manière du dernier Kev Jarrett ou peut-être aussi de Brad Meldow, c'est-à-dire c'est une espèce de musique à la fois rythmique dans la trance qui est assez simple harmoniquement. Voilà, c'est peut-être du Sofiane Pamart de luxe, on peut dire, avec ce sens de l'enchaînement des harmonies et du côté répétitif. C'est un très grand compositeur.
Ah oui, non, mais c'est clair. Alors on va peut-être écouter la formule violon et harpe avec un extrait de la fantaisie de Camille Saint-Saëns. Thank you.
tempo classique sur RCN, Dominique Bréda.
C'était un extrait de la fantaisie pour violon et harpe de Camille Saint-Saëns. Alors Hugues, le violon sera également associé au piano, notamment dans ce concert qui sera donné par Éléonore Darmon, la nouvelle violon solo super soliste de l'Orchestre de l'Opéra National de Lorraine, que j'ai eu le plaisir de recevoir à ce micro lors de sa prise de fonction. Et vous l'accompagnerez dans deux monuments de la littérature pour ces deux instruments, la première sonate de Gabriel Fauré et la célébrissime sonate de César Franck.
Oui, alors bon, c'était l'idée de rapprocher ces deux sonates. Alors évidemment, des centaines de duos l'ont fait, voire des milliers. Ce qui est intéressant, c'est de mettre l'accent sur ce renouveau de la musique de chambre française. Mmh. On a eu, après justement les Mongeroux et la Durner et autres, Adam, un grand trou qui a été plus ou moins comblé par Berlioz, mais enfin qui est dans un domaine plus symphonique et des ouvrages lyriques. Et donc la musique de chambre était tombée vraiment bien bas, alors qu'en Allemagne, évidemment, il y avait des chefs-d'œuvre qui s'enchaînaient sur les chefs-d'œuvre. Mmh. Avec les Schumann, les Brahms et autres, et Mendelssohn. Et donc, voilà. Et arrive cette génération avec Saint-Saëns, Fauré et Franck, qui remettent à l'honneur cette idée de d'écrire pour plusieurs instruments simultanés. Et évidemment, ça va donner des choses absolument merveilleuses et qu'on retrouvera aussi chez Debussy, Ravel un petit peu plus tard. Mmh. Et la première sonate de Fauré, c'est une œuvre qui est très chère à mon cœur puisque c'est une des premières que j'ai jouées en concert dans ma jeune vie de virtuose. Et elle est une réussite parfaite. Il faut se rappeler que le scherzo de cette sonate avait été bissé après le scherzo lui-même, c'est-à-dire qu'on n'a même pas attendu le final pour bisser le mouvement. Donc c'était, ça plaisait aux gens. C'est vrai qu'il y a un côté encore très romantique chez Fauré, avec déjà cet idiome fauréen et français, sachant que Fauré va vivre vieux et évidemment va aller après vers une espèce de mysticisme absolument magnifique, mais peut-être plus dur pour le public. Quand on pense au trio puissant, quant à la sonate de César Franck, alors très longtemps on a pensé que c'était la fameuse petite phrase de Vinteuil, de la sonate de Vinteuil de Proust, et Proust lui-même dira qu'il en avait un petit peu honte, mais que c'était une œuvre pour lui beaucoup moins intéressante, qui était tirée d'une œuvre de Saint-Saëns, la fameuse petite phrase. Mais enfin, ça marche très bien, et il y a des choses comme ça qu'on aime croire. Alors on pensera à la recherche du temps perdu en écoutant cette magnifique sonate.
Eh ben, je vous propose d'en écouter le final par Clara Mesplé et Cyril Van Ginneken.
Thank you.
C'était le final de la sonate de César Franck par Clara Mesplet au violon et Cyril Van Ginneken au piano. Alors, autre programme piano-violon, Hugues Leclerc, mais cette fois autour des ballets russes, avec le duo de David Aroutounian au violon et Xenia Maliarevitch, qui est une ancienne élève du Conservatoire de Nancy.
Exactement, donc de la génération des Romain Descharmes, Laurent Duruy, très très brillante. Quand j'étais encore professeur là, elle n'a pas été mon élève en piano. Je l'ai eu un peu en musique de chambre, mais c'est une pianiste qui fait maintenant une carrière internationale, qui est extrêmement douée et qui, comme Éléonore Darmon, montre que le Conservatoire du Grand Nancy sait produire aussi des musiciens professionnels de haut niveau. Je rappelle que j'ai commencé mes études au conservatoire de région de Nancy avec Marie-Paul Triébel il y a là de quelques années. Ouais. Alors voilà, je dis ça en toute modestie, hein, c'est pas pour me comparer aux uns aux autres, mais on forme de très très bons musiciens dans cet établissement.
Donc on revient au ballet russe, un programme Stravinsky, Prokofiev, Shostakovich et Khatchaturian, des grands noms.
Oui, alors, bon, évidemment, on sait que Stravinsky était porté sur le ballet, mais c'est une tradition très russe de savoir aussi écrire pour le ballet, chose qu'on retrouve aussi dans l'école française, mais parfois avec plus ou moins de réussite. Hein. On sait que Debussy avait prévu un certain nombre de pièces dont la plupart n'ont pas été abouties. Il a pris l'argent de la commande et il n'a jamais fait l'œuvre. Mais en tout cas, les Russes sont allés au bout et il y a cette grande tradition. Et puis bon, qu'on a évidemment retrouvé avec les ballets russes à Paris au début du XXe siècle. Donc là, le programme est bâti sur ces œuvres, des transcriptions pour la plupart, et donc tirées soit d'ouvrages lyriques, soit d'ouvrages de ballet. Donc parce que dans les ouvrages lyriques, il y a aussi des scènes dansées. Mm-hmm. Et donc, ça, je pense qu'on va avoir un programme à la fois intéressant et aussi pulsé. Donc, j'ai beaucoup de hâte à entendre ce programme.
Eh bien, on va en écouter un petit extrait avec un extrait du Baiser de la fée de Stravinsky. Thank you. C'était un extrait du Baiser de la fée de Stravinsky, dans l'interprétation de Solène Païdassi au violon et Frédéric Weskniter au piano. Alors la voix n'est pas oubliée dans cette version 2024 des Nancy Phonies, avec un récital intitulé « Miroir » et qui sera donné par la soprano Laure Baer, bien connue dans la région pour s'être notamment occupée durant de longues années du festival de Froville, et elle sera accompagnée par la pianiste Laure Favre-Cannes.
Oui, alors le programme est vraiment très intéressant. Alors, on se demande pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt, sachant qu'on a ces correspondances, notamment qui peuvent venir de l'exploitation du même poème. Par exemple, les soupirs chez Debussy et Ravel. Bon, donc là, les deux artistes ont décidé de rapprocher en fait des œuvres qui sont proches par le titre ou l'inspiration, et donc de les mettre en miroir avec un fil conducteur qui est peut-être Gabriel Fauré, mais enfin bon, en filigrane qui sous-tend la programmation. Donc on se retrouve évidemment avec des évocations très diverses comme les fleurs ou autres.
Clair de lune
évidemment. Ouais.
Chevelure.
Oui, donc ça va un peu dans tous les sens, mais j'aime beaucoup ce type de programme un peu varié, inattendu, et puis surtout le jeu va être de voir quelles sont les rencontres entre ces compositeurs qui ont eu la même inspiration à un moment donné.
Alors, au niveau de l'eau, on aura les jeux d'eau de Ravel, et puis également une mélodie qui s'appelle La pluie, qui a été écrite par Louise Didier. On l'écoute.
RCN, Tempo Classique, Dominique Breda.
C'était La pluie de Louise Didier dans l'interprétation de Fiona McGon et David Cadouche. Alors dans ce festival Nancy Phonie 2024, on retrouve la pédagogie avec trois masterclass. Qui seront donnés par qui alors ?
Alors qui seront donnés par des artistes qui sont programmés dans le festival. Donc on a du piano, on va dire classique, romantique, avec Albert Mamrieff. Alors Albert Mamrieff, c'est le prototype du pianiste qui a été formé au Conservatoire de Moscou, qui a gagné des grands concours. Il a eu le premier prix à l'UNISA, donc le concours de Pretoria, entre autres. Et puis c'est un virtuose qui aborde le grand répertoire et puis qui a cette approche extrêmement qu'on connaît, hein, extrêmement efficace et profonde du piano, de la grande école russe du piano. Eleonore Darmon qui va elle aussi donner cette fois-ci pour les cordes et notamment les violonistes. Alors tout ça se destine principalement aux étudiants élèves du Conservatoire du Grand Nancy. Elle va s'occuper des ouailles. Alors là, on va rentrer dans les secrets de cuisine avec les coups d'archet, la manière de jouer juste, de faire sonner l'instrument, de vibrer. Et puis, nous aurons aussi une troisième masterclass avec Karen Devrop, qui est le meilleur jazzman d'Afrique du Sud, je pense. Magnifique jazzman qui a été formé à l'université de Berkeley à Boston et qui est un saxophoniste et qui va faire donc une masterclass, là, cette fois-ci, de jazz pour les ensembles et les jazzmen du Conservatoire du Grand Nancy. Donc, cette notion de transmission qu'on retrouve dans les concerts du kiosque est extrêmement importante pour moi. Je trouve que c'est important d'offrir des possibilités de jouer à tous les niveaux de développement des élèves et des étudiants et après des jeunes artistes. Et cette notion de masterclass est un premier étage, on va dire, de l'édifice qui suivra après par les concerts à la pépinière avec les très jeunes solistes suivis des jeunes solistes et puis après dans la programmation elle-même.
Alors je reviens sur les concerts du kiosque. Comment vous choisissez les solistes et les jeunes solistes ? Comment ça s'articule tout ça ? Comment ça s'organise ?
Alors, donc l'idée des très jeunes solistes, donc sont des très jeunes musiciens qui ont entre 12 et 16 ans.
C'est pas uniquement des pianistes ?
Là, cette année, il n'y aura que des pianistes, donc qui font 15 minutes en ouverture du récital du kiosque. D'accord. Et puis après, donc ces élèves-là sont choisis. Par mes chers collègues du Conservatoire du Grand Nancy.
D'accord, ok.
Et puis d'autres qui viennent de Paris, hein, de la région parisienne, qui peuvent être mes étudiants ou mes élèves ou ceux d'autres. En l'occurrence, cette année, je n'ai pas d'élèves à moi. C'est une élève de Romano Palottini, Qingyao Shen, qui va jouer. Et puis, pour les jeunes solistes, ceux qui font le récital de 50 minutes qui suit, alors là, ce sont plutôt des jeunes professionnels qui sont déjà dans la carrière, qui ont terminé en général le Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon ou de Paris, et qui sont déjà, qui ont une expérience, hein, comme on le voit dans les CV. Exemple, Gaspard Thomas a déjà joué à la scène musicale, il a joué à Radio France, il a joué aussi au Festival de Nohant, donc voilà, ce ne sont plus des débutants. Avec, là, encore une gradation. Par exemple, Louis Assous de Lerme est encore en cycle préparatoire à l'enseignement supérieur, Conservatoire de Saint-Maur. Il a été mon élève auparavant. Et puis d'autres, comme Ryo Sasaki, qui ont déjà deux masters et donc qui commencent à se produire depuis, depuis des années, se produisent déjà comme jeunes solistes.
D'accord. Et puis alors, on a la petite touche Jeux Olympiques.
Oui, alors, bon, c'est mon idée, donc je ne vais pas critiquer. Mais bon, le lien avec les Jeux Olympiques est assez distant, parce que vous savez que les Jeux Olympiques sont extrêmement regardants sur l'utilisation du nom.
Oui.
Donc on ne peut pas utiliser Olympiade, Olympique, enfin vous avez 20 termes qui sont interdits, voilà. En tout cas, là, nous sommes dans Fou de sport, il semble qu'il n'y ait pas que ça en sport dans cet été, entre les championnats d'Europe et les Jeux Olympiques, et donc c'est le trublion qui est fou de sport en vrai, belge, Alex Vizorek, à qui j'ai eu l'idée de proposer la création de ce spectacle. Et donc on va partir sur les ratés, les anecdotes, une vision un petit peu satirique du sport, même si on en parlera avec beaucoup de sérieux pendant tout l'été. Alors c'est bien d'avoir un peu de, un petit peu de légèreté,
un petit peu de fraîcheur,
de,
oui.
De parler des, un peu des tocards, des ratés, des, de ceux qui sont arrivés tout le temps deuxième ou dernier. Enfin voilà. Et donc va l'accompagner un ami à moi que j'aime beaucoup, Pascal Comté, qu'on connaît comme accordéoniste, qui se produit avec beaucoup, notamment Marie-Christine Barrault, et qui est un improvisateur incroyable. Alors il va pas faire du Yvette Horner, que je respecte beaucoup, ça, on sera pas dans la musette, mais il y en aura peut-être un petit peu, mais en tout cas il va faire plutôt des illustrations dont il a le secret à accordéon levé.
Et puis alors on va s'arrêter aussi sur le programme de quatuor avec flûte de Mozart.
Oui, alors c'est la deuxième fois que viendra, troisième fois que viendra Tommaso Bencholini, qui est un jeune flûtiste italien, beau comme un Adonis, talentueux. C'est la grande flûte italienne qui, dont l'école vaut bien celle de la France quand on est à ce niveau-là. Et Tommaso aime bien, lui, les monographies. Il était venu avec l'intégrale des concertos de Vivaldi. Il y a deux ans avec un petit ensemble baroque, et puis là il revient avec l'équateur avec flûte de Mozart. Alors on dit que Mozart n'aimait pas beaucoup la flûte. En attendant, il a fait quelques réussites, et puis bon, évidemment dans les œuvres symphoniques, la flûte y apparaît très bien. Donc je pense que c'est un peu une légende, et en tout cas ces quatuors sont une réussite totale. On est vraiment dans le génie immanent mozartien, avec une musique qui n'est pas la plus profonde métaphysiquement, même s'il y a quelques moments très profonds et sensibles, mais on n'est pas dans Don Giovanni ou dans La Flûte Enchantée, mais disons qu'on est dans cet univers qu'il aimait beaucoup, cet univers de la fête, qu'on retrouve aussi dans les musiques pour instruments avant, les musiques de table, voilà. Donc ça, c'était ce Mozart, je pense, qui était bien un joyeux de riz, n'est-ce pas ?
Oui. Alors, donc, les concerts se déroulent Salle Poirel.
Alors, il y a trois concerts Salle Poirel, pas mal de concerts au Grand Salon de l'Hôtel de Ville, deux concerts qui se déroulent et des masterclass qui se déroulent dans l'auditorium du Conservatoire du Grand Nancy, que je tiens à remercier ici. Et puis, nous avons évidemment les concerts à Séchamps et à Vendeuvre, auxquels il ne faut pas arriver trop tard parce qu'ils sont pleins maintenant à chaque fois. On est obligé de refuser un peu de monde, donc il vaut mieux s'y prendre en avance. Ils sont gratuits, ce concert-là.
Bien, on va écouter peut-être un petit extrait du quatuor en Do majeur de Mozart, la dernière variation du second mouvement. Voilà, c'était la dernière variation du second mouvement, Andantino con variazione, en Do majeur, de Wolfgang Amadeus Mozart, dans une version, excusez du peu, Jean-Pierre Rampal à la flûte, Isaac Stern au violon, Salvatore Accardo à l'alto et Mislav Rostropovitch au violoncelle. Ça, c'est des programmations qu'on aurait aimé avoir, Hugues Leclerc, je suppose.
Oui, mais ils sont presque tous morts, donc, donc voilà. Ils sont tous morts, même d'ailleurs. Donc voilà, ça sera. Mais bon, on a les Stern et Rampal
d'aujourd'hui et de
d'aujourd'hui,
demain.
Donc voilà. Regardons vers l'avenir, Dominique.
Très bien. Merci Hugues pour votre passage dans Tempo Classique et puis bon festival. Et puis,
merci Dominique.
Voilà. Merci à Joris pour la technique et à la semaine prochaine.